Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Et on est heureux d'accueillir ce matin toute l'équipe de Laissez-vous tenter comme tous les jours. Et on va parler, bien sûr, de trio Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Colinka, les ex-téléphones qui ont donné hier soir à Amiens le coup d'envoi de la tournée événement des Insus, puisque c'est leur nouveau nom. Steven Bellery était dans la salle et il est avec nous, son reportage dans un instant. Jean-Christophe Granger publie la suite de Lontano dans un volume 2 intitulé Congo Requiem, que Bernard Lehu m'apporte à l'instant. Thriller survolté, doublé d'un roman d'aventure, c'est ce que nous dira Bernard qui a rencontré l'écrivain. Et on vous donne rendez-vous au 3210 puisqu'on va vous offrir des exemplaires dédicacés de ce nouveau livre. Après s'être exilé à Venise, la collection d'art du milliardaire François Pinault sera finalement de retour en plein Paris à l'automne 2018 dans le bâtiment en rotonde de la Bourse du Commerce. Une collection impressionnante de plus de 3000 œuvres, nous dira Monique Younes. Et puis on prendra connaissance des express du jour préparés aujourd'hui par Anne Lehenaf.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et de la musique donc pour commencer. Quelle musique après quelques concerts de chauffe l'automne dernier. Les ex-téléphones, qu'il faut donc désormais appeler les Insus, ont donné hier soir le coup d'envoi de leur tournée au Zénith d'Amiens. 53 dates sont programmées. Déjà 600 000 billets vendus, festival compris. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour.
Alors vous avez bien de la chance, vous étiez dans la salle pour RTL.
Oui, trois énormes points d'interrogation s'illuminent au-dessus de la scène. C'est le logo des Insus. Richard Colinka apparaît derrière sa batterie, puis Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac débarquent pour cracher leur venin.
Ta prison est...
Les grosses enceintes sont posées sur la scène, pas de décor, pas de vidéo. Les points d'interrogation se transforment en projecteurs et les Insus enchaînent avec un morceau du tout premier album de leur ex-groupe, Hygiaphone. Oui, les Insus n'ont chanté que des morceaux de téléphone. 23 titres en 2h20. Ils enchaînent Faits divers, Argent trop cher et La bombe humaine. Jean-Louis Aubert lance Que c'est merveilleux d'être avec vous ce soir et tombe la veste. Louis Bertignac, lui, refuse d'enlever la sienne.
Je reste comme ça au maximum parce que je suis plus beau. Ouais,
t'es beau.
Toi aussi, t'es beau. Ah, mais c'est surtout quand j'enlève la veste, on voit une bide.
Louis Bertignac cache donc son bide, garde le micro et entonne Cendrillon. Les Insus piochent des titres dans leurs 5 albums, y compris Des raretés sur scène, Le Temps, extrait de l'album Dure Limite paru en 82, où le morceau Ce que je veux, 1986, dernier disque de téléphone, et hier soir ça donnait ça. Est très rock, abrasif, parfois brut. Les Insus voulaient revenir à la couleur de leur début. La musique respire, les longs solos de Bertignac électrisent la foule. Colinka tape fort, Aubert est vocalement impressionnant. Le jeune Alex Angelov remplace Corinne Marieno à la basse. Très discret, il sort très peu de l'ombre.
Pour la couleur musicale des débuts, c'est réussi, hein, on l'a entendu, mais est-ce que la complicité entre les musiciens était au rendez-vous, Steven?
Honnêtement, oui, c'est pas surjoué. On ressent leur plaisir de gosse à se retrouver ensemble. Les trois sexos se charrient tous les deux titres. Bertignac s'approche d'Aubert et lui lance ta bonne haleine. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. Les Insus offrent une parenthèse acoustique, guitare sèche pour le silence, piano pour le jour s'est levé. Le public frémit, les fans n'y croyaient plus. Revoir ce trio légendaire du rock à la française. Quelques accords retournent la salle. C'est l'heure des tubes comme New York avec toi.
C'est toi. Voici le cœur de la vie, par toi.
Ça c'est vraiment toi, dure 10 minutes Aubert, il ajoute un refrain de All Lot of Love de Led Zeppelin, inattendu, jouissif, de quoi nous faire voyager dans un autre monde. C'était vraiment hier soir, c'était du live. C'est tellement bon d'être ensemble. Putain, on n'a qu'une vie, là, Chaubert, en mimant des larmes. À la sortie, les fans exultent.
Ils ont toujours la patate malgré leur âge, quoi. Génial, très très bien.
C'était vraiment super, quoi, de les retrouver, hein, en pleine forme.
Super, bah ça fait 30 ans qu'on attend ça.
Impeccable, toujours à fond, ça déménage.
Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Je croyais que je les verrais jamais. Hein.
C'était divin. Ils sont restés à l'âge d'adolescence. Et c'est nos stones à nous.
Moi, là, je peux mourir tranquille.
Les Insus sont en tournée partout en France. Mention spéciale aux Lumières signée Dimitri Vassiliou. Le travail des Jeux d'Ombre est formidable. Le groupe joue demain au Zénith de Rouen, lundi à Orléans, le 3 mai à Angers, dans une dizaine de festivals estivaux. Les 21 et 22 octobre à Paris, Bercy, dépêchez-vous. Il ne reste qu'une poignée de places à vendre sur l'ensemble de la tournée.
Ouais, je rappelle, donc 600 000 billets
avec qui ont déjà été. Ça sera la tournée de l'année, je pense.
Ouais, la tournée de l'année. Et donc ce tout premier Zénith des ex-téléphones, j'allais encore les appeler téléphones. Les Insus, bien sûr, vous y étiez. Compte rendu signé Steven Bellary. Et les audiences à présent avec Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle.
Écoutez,
comment ça se présente?
Tout chaud sorti des presses, comme dit l'autre. Eh bien, c'est la série Accusée, série noire réaliste de France 2 qui est arrivée en tête. Près de 4 500 000 téléspectateurs et près de 18% du public sur la 2, devant TF1 qui, avec Grey's Anatomy, qui n'a jamais été un record d'audience, Grey's Anatomy, 4 410 000 allés à
ça
la
se
louche.
Défend quand même.
Et moins de 18% du public sur la 1. Et alors, en troisième position, c'est Des Racines et des Ailes, 2 700 000, tranquillement. Maison à vendre avoisine les 2 millions, mais c'était une rediffusion. Vous savez, ça remplaçait Super Kids qui a été déprogrammé en urgence. Et alors, côté TNT, Bernard, vous qui avez des meilleurs yeux que moi. Donc, W9, Enquête criminelle, 750 000 téléspectateurs. Oui, parce qu'il met ses lunettes. Et alors, ce soir, toute petite
pour lire, c'est recommandé.
Il y a un sujet étonnant d'Envoyé spécial sur les divorces chez les plus de 60 ans. Ils ont doublé en moins de 30 ans. Mais en revanche, depuis 2006, le nombre de couples qui se marient aussi après 60 ans, a augmenté de 20%. Il y a peut-être une relation de cause à effet, relation stable, évidemment.
Évidemment, Isabelle Morini-Bosque, toujours stable avec vous. Bernard Lehu qui a mis ses lunettes, notamment pour lire Jean-Christophe Granger, dont il va nous parler dans quelques instants. Dans quelques instants aussi, Anne Le Hénaff, avec encore un super-héros qui enflamme le box-office. À tout de suite.
Les Express LVT.
Les Express de Laissez-vous tenter avec vous, Anne Le Hénaff. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Bonjour Anne.
Oh là là.
C'est
bizarre.
Anne.
Oui, c'est assez surprenant.
Voilà. Mais c'est comme ça ici.
Anne,
voilà.
Est-ce que je peux en placer une?
Allez-y, Jérôme.
Le film Captain America, Anne Le Hénaff.
Civil War,
c'est un nouvel épisode. Il est sorti en salle hier et alors il enflamme déjà le box-office.
Eh oui, c'est le meilleur démarrage de l'année, autour de 300 000 entrées hier pour cette première journée sur les écrans. Le porte-monnaie de Robert Downey Jr., déjà plutôt bien garni, devrait encore gonfler, parce qu'en plus des 40 millions de dollars touchés pour incarner Iron Man dans ce film, la star a aussi négocié, et elle a bien fait, un intéressement sur les recettes mondiales.
Ça peut toujours servir. La prochaine rentrée littéraire est déjà sur les rails.
Et on y retrouvera la prolifique Amélie Nothomb pour la 24e année consécutive. On connaît déjà le titre de son roman, Riquet à la houppe. C'est inspiré du célèbre conte de Charles Perrault, que connaît bien Isabelle, donc.
Oui.
Et ce n'est pas la première fois qu'Amélie Nothomb reprend un personnage de Perrault.
Il y avait Barbe Bleue.
Absolument. Ouais. Il y a 4 ans, la sortie de Riquet à la houppe. Elle est annoncée pour le 18 août, ce sera aux éditions Albin Michel.
Marc Lavoine, lui, s'est inspiré d'un conte d'Andersen pour son retour à la musique.
Le chanteur vient de terminer l'enregistrement à Paris d'un conte musical adapté des Souliers Rouges. Écrit par l'auteur danois au 19e siècle, Marc Lavoine y travaille depuis 7 ans. Et on découvrira à ses côtés Cœur de Pirate et Arthur H. Le disque de ce trio inattendu sortira à la rentrée. On en découvrira un premier extrait avant l'été.
Marianne James en Madame Loyale sur France 2.
La chanteuse et comédienne qui présente déjà l'émission Prodige sur la chaîne sera en effet chargée d'animer le 53e gala de l'Union des artistes. Ce sera tourné le 13 juin prochain au Cirque d'hiver à Bouglione, à Paris. Le thème du gala cette année, le cirque fait son cinéma.
Et pour terminer à propos de cinéma... Un restaurant éphémère consacré à Star Wars qui va donc ouvrir à Londres au mois de juin.
Pour une semaine, une seule semaine, du 23 juin au 2 juillet. Le lieu exact sera tenu secret jusqu'au bout, mais on connaît déjà le nom. Fork Awaken. Je vous laisse apprécier le jeu de mots. Qui rend, c'est vrai,
quelque chose à voir avec la force, c'est ça?
Voilà, Fork Awaken.
Et la fourchette.
Mais en français, ça rend beaucoup moins bien. La fourchette se réveille. Ah c'est, oui. Ça sonne moins bien. Au menu, soupe boueuse de Tatooine, des mini Banta burgers. Et un cocktail Jedi sabre laser.
Ah, ça c'est bien.
Il n'y a que les Anglais qui peuvent manger ce genre de choses, non?
Ça vous coûtera quand même 65 livres, 85 euros, mais c'est déjà complet.
C'est pas si loin dans la galaxie. Merci Anne pour les express du jour. Et je me tourne donc vers Bernard Lehu et je prends le pavé.
Plus de 700 pages.
Plus de 700 pages. Jean-Christophe Granger est donc de retour dans les librairies 7 mois après la parution de son dernier succès, L'Antamour.
Oui, ici même en septembre, il nous avait annoncé qu'une suite était déjà prête à la saga des Morvan, père et fils, lancée sur les traces de l'homme clou, un tueur psychopathe comme les aime Granger. Dans Congo Requiem, publié chez Albin Michel, on retrouve donc les Morvan traquant la vérité jusqu'au cœur de l'Afrique. Alors c'est la première fois que Jean-Christophe Granger publie ainsi en 2 volumes l'une de ses intrigues et qu'il met en scène une même famille, visiblement, ça l'inspire.
Depuis toujours, j'adore comme spectateur ou lecteur les sagas familiales, parce que je trouve qu'il y a une histoire, donc un déroulé d'événements, et puis c'est enrichi par toutes les relations entre les parents, les enfants entre eux. Et ça, je trouve ça très très humain, très très prenant, et moi personnellement, j'adore ça. Donc ça faisait longtemps que je voulais, en filigrane d'enquête policière, raconter l'histoire d'une famille. Alors évidemment, bon, ma famille, c'est à la sauce Granger, elle est tout à fait particulière. Les membres sont assez uniques en leur genre, et puis c'est sur fond criminel, il y a quand même eu des crimes, des meurtres, et puis une enquête. Mais je voulais mixer tout ça pour que, justement, au bout d'un moment, l'enquête criminelle révèle des secrets sur cette famille. Et encore une fois, c'est des secrets assez démoniaques, puisqu'on est chez Granger.
On est chez Granger, il parle de lui à la troisième, il parle de lui à la troisième personne. Vous me rassurez, il n'est pas en train de se dédoubler, Jean-Christophe Granger, comme c'est toujours cool.
Non, allez, je vous rassure. Mais bon, bah, c'est vrai que Granger, c'est devenu en quelque sorte une sorte de label, hein, désormais, dans le polar français. Bon, allez, plus sérieusement, dans Congo Requiem, la suite de Lontano, les Morvan, père et fils, remontent donc aux sources du mal et de leur histoire familiale très chaotique, vous allez le découvrir, dans une Afrique en guerre, effrayante, apocalyptique. Alors j'ai demandé à Jean-Christophe Granger quel était son secret pour restituer avec autant de réalisme ces ténèbres africaines.
Alors, mon secret, il est tout simple, vous vous en souvenez peut-être, j'ai été grand reporter pendant 10 ans et j'ai connu tous ces mondes-là, j'ai voyagé en Afrique, à l'époque il n'y avait pas la guerre du Congo, mais j'ai quand même voyagé dans ces régions, j'étais aussi au Centrafrique et si vous voulez, à l'époque, j'étais un jeune intellectuel qui n'était jamais sorti de chez lui. Et j'ai vécu ces choses qui étaient très, très fortes, d'une façon encore plus forte, parce que j'étais une sorte de petit puceau du voyage, de l'inconnu, comme ça. J'ai été très sédentaire et j'ai vécu très, très violemment le choc de tous ces pays. Et parmi eux, l'Afrique m'a laissé un souvenir indélébile. En cas de besoin, j'exhume tous ces souvenirs et qui sont encore une fois très forts et très violents, parce que vraiment, c'est une autre planète. Bon, bah, c'est ce que je raconte dans mon livre. Il y a ni route, ni règles, ni rien. Quoi. On revient vraiment à une espèce d'aube de l'humanité, d'autant plus que maintenant, avec la guerre, plus personne s'y risque. Donc mes personnages, bon, les deux Morvan, le père et le fils, chacun pour des raisons différentes, sont plongés dans cet enfer. Et ça me plaisait beaucoup de raconter ça, oui.
Et alors croyez-moi, les 700 pages de Congo Requiem défilent au rythme trépidant, non seulement d'un thriller survolté, mais c'est aussi doublé d'un roman d'aventure envoûtant.
Alors, outre les souvenirs que ces années de reportage lui ont laissés, qu'ont-elles appris au romancier Jean-Christophe Granger ?
Eh bien, il vous répond lui-même.
Ça m'a appris la valeur du vécu. Moi, j'avais fait un mémoire sur Flaubert, qui est un homme qui est quasiment resté toute sa vie dans sa petite maison de Normandie, avec sa mère, et qui a beaucoup défendu l'imaginaire et le travail artisanal de l'auteur. Ce en quoi je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais à cette époque, je croyais que ce travail artisanal solitaire suffirait à me faire écrire des livres. Mais par chance, j'ai pu devenir grand reporter et j'ai découvert la priorité de la vraie vie, si vous voulez. C'était très important de sortir de chez soi, d'aller voir les choses, d'aller voir les pays lointains. Moi, j'ai eu cette chance de voyager énormément grâce au reportage. Et c'est comme le sculpteur qui n'aurait pas son marbre. Le marbre, c'est le vécu. Ces reportages m'avaient donné une sorte de matière que j'ai pu sculpter. Et j'exhorte tous les écrivains à faire comme moi, à sortir de chez eux.
Ah, le marbre du sculpteur Granger, c'est le vécu, c'est une jolie formule.
Eh oui, en effet. Hein. Et alors, et lui, Jean-Christophe Granger, qui se plaît à faire trembler ses lecteurs, mais de quoi a-t-il peur dans la vraie vie?
Alors là, je suis resté très, très, très pur et innocent. J'ai absolument peur de tout ce dont a peur n'importe quel être humain. Je suis resté avec, entre guillemets, très frais face à la peur. J'ai toujours peur qu'on rentre chez moi. J'ai toujours peur que cette chose horrible dont je parle dans mes livres, la violence, la méchanceté, la cruauté, la mort, vienne sonner à ma porte. On ne peut pas dire que je sois quelqu'un qui, à force d'écrire toutes ces choses-là, s'y est habitué. Pas du tout. Enfin, j'ai peur comme tout le monde.
Et quelle est la violence pour vous la plus inacceptable?
Celle envers les enfants.
Alors, les enfants, Jean-Christophe Granger en a quatre, eh bien, ce sont la respiration de l'écrivain, l'explorateur du mal et du crime.
J'ai la chance de travailler chez moi, et contrairement à ce que mes livres pourraient laisser penser, chez moi, c'est une vraie cour de récré, il y a des enfants de tous âges qui courent dans le couloir, qui rentrent pour un oui, pour un non dans mon bureau, et c'est ça, mon aération permanente, si vous voulez, au bout d'une heure, je vais aller prendre un goûter avec mes enfants, maintenant j'ai un tout petit là, de 15 mois, ça c'est l'aération totale et c'est absolument le contraire de mes livres, c'est la pure innocence, la pure joie de naître, de vivre. Quand j'ai fini vraiment comme l'artisan sur mon tour de sculpter telle et telle chose, je vais déjeuner avec mes enfants très calmement, personne ne peut soupçonner ce qui s'est passé le matin dans ma tête.
Voilà, le bon père de famille, Jean-Christophe Granger, il publie chez Albin Michel Le terrifiant Congo Requiem, la suite de Lontano, paru en septembre dernier.
Un bon père de famille, donc c'est une affaire de famille qui nous raconte donc Jean-Christophe Granger. Et on va le faire gagner, hein, ce Congo Requiem, dédicacé par Jean-Christophe Granger.
Exactement.
À condition de répondre à la question que vous posez, Bernard Lehut.
Quel est le nom de la famille au cœur de l'intrigue imaginée par l'auteur des Rivières Pourpres, les Morvans ou les Durands?
On vous attend au 3210 pour répondre à cette question dans un instant. Monique Younes et la Fondation Pinault qui revient en France. Un événement.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h30.
J'ouvre une toute petite parenthèse dans ce Laissez-vous tenter pour vous confirmer l'information que nous donnaient tout à l'heure quelques auditeurs. Il y a bel et bien eu un tremblement de terre ce matin. Il était 8h45 dans la région de La Rochelle et Rochefort. C'est là que la plupart des témoignages nous ont été. C'est de là que la plupart des témoignages nous sont parvenus. Et on vous le confirme. Hein. On va évidemment chercher des informations parce qu'il semble que la magnitude pourrait être de 5. Elle vient d'être confirmée, magnitude 5, ce qui n'est pas rien quand même dans cette région. Je me tourne maintenant vers Monique Younes pour la suite de Laissez-vous tenter. Monique, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est donc désormais officiel, la Bourse de Paris va abriter en 2018 la collection, la Bourse de Commerce,
bien sûr.
La Bourse de Commerce, voilà.
C'est pas la
collection
quoi.
Du milliardaire breton François Pinault, je vous remercie. Il l'a annoncé hier à l'Hôtel de Ville, c'était en compagnie de la maire Anne Hidalgo.
Oui, elle était vraiment ravie, Anne Hidalgo.
Je suis heureuse, fière d'être ici aux côtés de François Pinault. Nous allons avoir la chance inouïe à Paris d'accueillir les collections de Monsieur Pinault. C'est une proposition magnifique, un cadeau exceptionnel. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Donc, laissez-moi vous dire ma joie, mon bonheur. Je suis une mère extrêmement heureuse.
Bon, vous l'avez compris, pendant 8 minutes, elle est heureuse. Donc, François Pinault aussi était heureux. Il était accompagné par son fils, François-Henri, et de son petit-fils, François, pour bien montrer que sa collection est une collection familiale et que son musée parisien, lui, survivra. Alors, son accord passé avec la ville de Paris prendra la forme d'un bail emphytéotique de 50 ans.
Secrètement, je l'attendais depuis très longtemps, oui, puisqu'il y a eu cette belle aventure de Venise qui va continuer. Et maintenant Paris, qui est une aventure exaltante et qu'on va mener à son terme dans les plus brefs délais. C'est un lieu dont toutes les institutions peuvent rêver, bien évidemment. À nous maintenant d'en faire un lieu encore plus merveilleux à l'intérieur.
Et alors, que va donc exposer François Pinault à la Bourse du Commerce ?
Exclusivement de l'art contemporain international, avec, semble-t-il, un intérêt plus particulier pour les artistes français. Pinault, vous savez, possède une des plus importantes collections privées d'art contemporain au monde, plus de 3000 œuvres, de Pierre Soulages à Jeff Koons, une collection qui d'ailleurs s'élargit tous les jours.
C'est encore élargi il y a une heure, parce que j'ai acheté une œuvre avant de venir ici. Alors vous voyez, donc, ça bouge toujours une collection de l'art d'aujourd'hui, parce qu'il y a des artistes qui créent, qu'on voit des œuvres, des chefs-d'œuvre quelquefois dans leurs ateliers. Il faut savoir sauter dessus, les acquérir, ce que ne peut pas faire une grande institution contrôlée par des États. Il y a des comités d'acquisition, ça prend un certain temps. L'avantage d'un amateur privé, un peu fou, enthousiaste, c'est de saisir les occasions quand elles se présentent.
Voilà, François Pinault commandera aussi à des artistes des œuvres spécifiques pour la Bourse du Commerce, mais il est encore très tôt pour en parler. François Pinault ne sait pas encore quel nom il donnera à son musée. Est-ce que la Bourse du Commerce deviendra le musée Pinault, la collection Pinault, la Bourse Pinault?
Ou probablement pas le commerce Pinault.
Hein. Oui, rien n'est tranché, pas même le prix de la billetterie. La seule chose certaine, c'est que la Bourse du Commerce s'avère être un écrin idéal pour la collection du milliardaire, d'abord par son emplacement en plein centre de Paris, mais aussi par sa taille. Vous savez, la coupole de la Bourse est haute de 27 mètres, idéale pour les sculptures monumentales et surtout les installations, comme les affectionnent les artistes contemporains. Quant à sa superficie, la superficie de la rotonde, c'est François-Henri Pinault, le fils du patriarche, qui me l'a donné.
C'est 13 000 mètres carrés.
Qui va être entièrement occupé ou bien non?
C'est l'ensemble des surfaces. Donc, la partie muséale sera sans doute un peu plus petite que ça, mais c'est très grand. C'est plus grand que la pointe de la Douane ou le Palazzo Grassi pris séparément. Et je suis absolument ravi pour mon père. Et ça, il se fera un point d'orgue à surprendre. Même moi d'ailleurs, je fais confiance là-dessus, oui.
Voilà, faudra donc attendre 2018 hein, pour connaître toutes les surprises. Beaucoup de travaux d'ici là, j'imagine.
Alors, 100 millions d'euros de travaux, m'a confié hier Jean-Louis Misika, qui est chargé de l'urbanisme à la mairie de Paris. C'est le star architecte japonais Tadao Ando qui va être en charge de restaurer la Bourse du Commerce. François Pinault apprécie le style très dépouillé de cet autodidacte de 74 ans. Et de toute évidence, en 2018, le premier arrondissement de Paris sera flambant neuf. Les Halles avec leur canopée et leur jardin, la poste de la rue du Louvre qui change complètement, les quais qui, paraît-il, vont devenir piétons.
Et la Samaritaine aussi qui va renaître en 2018.
Alors là, mon chéri, c'était le mot qu'il ne fallait pas prononcer hier à la mairie de Paris. Pas question de gâcher le plaisir de François Pinault.
Mais
la Samaritaine n'était plus dans le premier arrondissement. Elle était aspirée par des extraterrestres. Ah bah, c'est la concurrence, vous savez. La Samaritaine appartient à Bernard Arnault, qui a eu son heure de gloire avec la fondation.
L'autre milliardaire.
Dont je tairai le nom. Maintenant, c'est au tour de son grand rival. La roue continuera de tourner. Le grand gagnant dans tout ça, celui qui est très, très content, c'est l'art. L'art content, l'art contemporain. Et Anne Hidalgo.
Et Anne Hidalgo, on l'a compris. On a compris que ça balançait pas mal à Paris entre les milliardaires aussi. Et comme ça balance, d'ailleurs, je balance ce matin la Bourse de Commerce. On est bien évidemment à la Bourse de Commerce et pas à la Bourse de Paris, comme vous me l'avez écrit sur le test que vous m'avez donné.
Mais c'est affreux. Mais c'est affreux.
N'importe quoi. Je balance. Dans quelques instants, la réponse au jeu. On vous fait gagner, je vous rappelle, le dernier livre de Jean-Christophe Granger, livre dédicacé. Bernard Lehu est avec nous.
RTL Matin, Jérôme Chapuis.
Et comme promis, la réponse à la question que nous posait Bernard Lehu tout à l'heure, je vous la rappelle. Hein, quel est le nom de la famille au cœur de l'intrigue du livre de Jean-Christophe Granger? Les Morvan ou les Durand?
Eh bien, ce sont les Morvan au cœur de l'intrigue de Congo Requiem.
Et Congo Requiem, donc, que vous avez gagné ce matin, si vous avez appelé au 3210, dédicacé, bien sûr, par Jean-Christophe Granger. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter.
Il y avait les Morvan.
Peut-être que je confonds, je ne suis pas sûr de ma source.
Comment ça va? Je vous vois,
oui.
Cher Julien Courbet.
Tout de jaune vêtu,
effectivement.
Maillot jaune.
C'est le maillot jaune du Tour de France et la couleur poussin. C'est un pull qui fait à la fois donc pull, mais également en cas d'accident, vous pouvez vous mettre sur le bord de la route, il ne vous arrivera rien.
Je vous conseille de regarder sur RTL.fr.
Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous.
À demain, Julien.